Il est 20h passé de 4 minutes et tout de suite, c'est l'heure de Génération Sport.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur le 101.5 FM sur Radio G ou bien sur le site internet www.radio-g.fr et on est très heureux une fois de plus de vous retrouver pour, vous l'avez remarqué, l'émission sportive de votre semaine. C'est l'heure de Génération Sport, une équipe au complet une fois de plus ce soir. C'est vrai que ça fait quelques semaines que nous trois déjà on est assidus, moi le premier, c'était moi le moins assidu de la saison, mais je suis content, on est enfin ressoudé comme au tout début. Donc vous l'avez déjà entendu avant le générique, Alex s'occupera de la régie ce soir. Comment tu vas, Alex?
Ça va très bien, et toi, Max?
Et très bien, voilà, comme j'ai dit, quand on est dans une telle équipe, on peut que aller bien. Cédric également est avec nous. La forme, Cédric?
Ça va. En plus, je peux quasiment être sûr, mais on est écouté en dehors de la France aujourd'hui.
Ah, donne-nous cette info. Où est-ce que tu penses qu'on est écouté?
Oh, sûrement dans un petit pays juste au-dessus d'une autre, sûrement en Belgique.
Eh ben, peut-être qu'on aura l'occasion justement de parler de nos amis belges et de faire justement ce rapport avec la Belgique au cours de l'édition. Et puis, on ne vous le présente plus, un autre élément s'est greffé petit à petit à cette émission de Génération Sport. On en est très heureux, c'est Faustin qui est une fois de plus avec nous. Comment ça va, Faustin?
Salut, peut-être un peu une débouchée à cause du pollen, mais ça va très bien. Aïe, aïe, aïe,
team pollen.
Il y a deux team pollen, Cédric, pas d'allergie au pollen?
Non, moi...
Bon, on est 2 sur 4 à pas être allergique au pollen, c'est...
C'est déjà pas mal.
Ouais, bon, c'est une bonne moyenne, non?
On a un stock de mouchoirs immense, de toute façon, pour l'émission. Faustin, de quoi tu vas nous parler ce soir?
Je vais parler e-sport et notamment de League of Legends.
Ok, donc on reviendra sur les récents exploits d'une certaine équipe française, notamment, on aura l'occasion d'en parler. Sinon, on va faire le 1-2 classique, on aura l'occasion de parler plus en détail de la fin de saison du SCO, on va également revenir sur le trophée UNFP. Voilà, on va essayer d'élargir tous les points qu'on va aborder pour essayer d'avoir une émission intéressante, mais pas trop non plus chargée, pas trop fournie, mais on va détailler bien tout ce qu'on va dire. Et donc on va commencer par l'une d'eux, Alex, et c'est toi qui vas le commencer.
Et oui, avec le basket, le fil rouge de l'émission précédente, c'était de savoir si l'UFAB allait pouvoir rester en vie dans les playoffs, dans sa rencontre contre Villeneuve-d'Ascq. Malheureusement, à domicile à Jean-Bouin, les Angevines n'ont pas vraiment fait le poids face à des nordistes plus forte évidemment sur le papier et sur le terrain. Là encore, une fois de plus, dans ces confrontations face à Villeneuve-d'Ascq, Angers a été proche de créer l'exploit et de remporter la partie. Ça avait mal commencé avec un premier quart-temps perdu 26-14. Et puis, petit à petit, Angers a pu grappiller des points. Ils sont repassés devant dans le dernier quart-temps avant de finalement s'incliner, donc 72-70. Fin de saison, donc, pour les Angevines qui, pour la plupart, ont officialisé leur prolongation dans le club, en tout cas le fait qu'elle restait dans le club, notamment Isis Arando, qui va rester une saison plus, notamment les Américaines aussi, Jasmine Bailey et Alexis Peterson, qui ont fait beaucoup de bien cette saison. Normalement l'effectif va rester le même et c'est pour le mieux, on n'en doute pas. Et au niveau des départs, pour l'instant aucun départ acté. Du côté de l'EAB, justement, deux départs qui étaient pour le moment prévus, c'est ceux de Joachim Haddad et de Karl David Nkunkouin, ce dernier qui était arrivé en milieu de saison. Et du côté de Cholet, la saison n'est clairement pas finie avec ce soir une qualif qui se joue pour les playoffs contre Monaco. C'est vraiment un gros match qui attend les Choletais qui peuvent encore donc croire à cette qualification en playoffs. Donc pour cela, il faudra battre Monaco ou espérer des mauvais résultats, notamment du Mans et de Nanterre. Et pour rappel, donc, les Choletais qui étaient avant-dernier en décembre dernier. Donc voilà, en décembre 2021, les Choletais qui jouaient le maintien et qui aujourd'hui jouent les playoffs. Donc c'est une très belle remontée. Faustin, toi, tu connais un petit peu l'équipe de Monaco. Qu'est-ce que tu peux en dire? Ça va être compliqué pour les Choletais ce soir?
Ouais, ça va être compliqué. Bah déjà, quand tu vois qu'ils ont fait un quart de finale de d'Euroleague où ils ont accroché jusqu'à un Game 5. Cholet, ils sont en bonne forme quand même cette saison, comparé aux saisons dernières où c'était plus compliqué. Après, tout est possible. Hein. Cholet, justement, ils peuvent... Monaco peuvent être aussi dans une mauvaise phase par rapport à la défaite qu'ils ont subie en Euroleague et avoir pris un coup mental. Mais rien n'est fait, même si je pense que Monaco reste quand même favori.
Très bien. Monaco est qualifié, donc...
Oui, ils n'ont rien à jouer, mais...
peut-être faire tourner, justement, vis-à-vis de...
Bon, on espère pour les
de l'arrivée des playoffs, quoi.
C'est ça. On suivra un petit peu le résultat du match pendant la mission.
On va continuer de parler de club angevin et de maintien, puisque ça y est, messieurs, le SCO est enfin maintenu en Ligue 1 pour la saison prochaine. Il a fallu attendre longtemps, et la 36e journée avec une défaite de Saint-Étienne ou de Bordeaux. De Saint-Étienne, je crois, face à Nice.
Les deux
avaient perdu. Donc voilà, le SCO est enfin maintenu en Ligue 1, et ce même malgré donc la défaite de ce week-end face à Metz. Donc défaite d'Angers 1-0 face à Metz. Metz qui, grâce à cette victoire, est remonté à une 18e place, synonyme de barrage. Et donc pour le dernier match, donc ce sera ce samedi lors du grand multiplex de cette dernière journée de championnat de France. Ce sera à la maison, face à Montpellier. Donc au niveau du classement, même s'il n'a plus beaucoup d'importance, le SCO est 14e et au pire du pire, le SCO finira sa saison à la 16e place et ne pourra pas aller au-dessus de la 14e place, sachant qu'on reçoit Montpellier qui est 13e, qui a quand même dégringolé tout au long de sa saison. C'est assez dommage. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler lorsqu'on parlera de la Ligue 1. Aussi une autre actu concernant le SCO qu'on pourra aborder. Oui Alex.
Oui, bah juste après justement.
Ah, ça, tu voulais embrayer là-dessus.
Enfin, en tout cas, le perdre contre Metz.
Oui, mais surtout que voilà.
C'est un peu moyen parce que. Au-delà, ok, le maintien a été fait, mais grâce au club qui était derrière, au final. Puisque de toute façon, il fallait qu'ils gagnent. Donc, ils ont rempli leur part du marché. Mais il y avait des conditions pour la valider avant les deux derniers matchs. Il fallait que Saint-Etienne perde, au moins. Donc, ça a été acté. Sauf qu'on sait les difficultés financières du club. Et il y avait des points grappillés pour être un tout petit peu plus haut dans le classement.
C'est possible.
Et c'est pas une différence de quelques euros.
Ouais, bah.
Donc, c'est un peu, je trouve, à l'image de la saison. Hein, c'est maintien c'est assuré, on est en vacances.
Après, je peux comprendre aussi que tu joues le maintien toute ta saison. T'arrives à la 37e journée, t'es assuré d'être maintenu. Je peux comprendre que tu lâches un peu le pied, et surtout qu'en face, les autres, Metz jouait pour leur maintien, clairement.
Ouais. Ah, mais logiquement, tu dois pas lâcher le pied contre Metz, justement.
C'est vrai que c'est dommage. Après, le plus important, c'est le maintien et c'est ce qui a été fait. Justement, on allait en parler de la fin de saison qui va être, au niveau des départs, qui va être très compliqué à gérer côté SCO et surtout pour envisager la saison prochaine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, Alex?
On parle de ça tout de suite?
Si tu comptais pas en parler.
Il y a encore deux infos et après on peut en parler peut-être.
C'est comme tu le sens.
En plus, on va parler de foot et on va parler un peu de SCO Handball. Donc voilà, ça va lier le sujet. En football, juste une petite info toute courte. C'est Bocouzé, le Sporting Club de Bocouzé, qui a obtenu sa montée en National 3. Donc déjà, félicitations à eux. Et donc voilà, on aura un autre club du Maine-et-Loire à l'échelle nationale. Du côté du Handball, déjà relégué en National 1. Le SCO a perdu 33-27 à domicile vendredi dernier contre Ponton Combo. La dernière journée se jouera vendredi prochain à Besançon pour sauver les honneurs angevins et aller chercher une cinquième victoire de la saison. Justement, donc voilà, la transition est faite.
Ça fait quand même pas beaucoup pour un club qui voulait se donner un peu des ambitions cette année.
Oui, que
4 victoires actuellement,
C'est très triste, il y a eu un clairement manque de résultats, de jeu surtout aussi on le voit sur certains matchs. Donc cette équipe n'a pas été au niveau en tout cas. Espérons que qu'elle saura rebondir et que voilà le club reviendra à l'échelon qu'il mérite. On va donc rebondir justement sur le SCO avec des départs en fait qui vont être actés. C'est la grosse actu qui entoure aujourd'hui le club d'Angers. C'est les départs de au moins trois cadres de l'équipe qui sont pas encore rendus officiels par le SCO, mais selon des sources assez fiables, ça a été donc quasiment fait. En fait, certains joueurs n'ont pas été retenus tout simplement par la direction du SCO. C'est le cas donc pour Ismaël Traoré qui l'a dit ouvertement, enfin qui a annoncé qu'il n'avait pas été retenu par le SCO. Il l'a dit en interview à Ouest France. Et puis pareil pour Romain Thomas, ça est tombé ça aujourd'hui, et Thomas Mangani. Donc voilà, c'est trois joueurs iconiques du SCO qui sont là depuis des années maintenant, qui quittent tout simplement le stade Raymond Coppa. Pour la triste nouvelle entre guillemets, c'est que Ismaël Traoré ne jouera pas son dernier match, donc la 38e journée.
Romain Thomas aussi,
et Ismaël Traoré ne sait même pas s'il veut se rendre au stade pour faire ses adieux, au moins en présentiel. Justement dans la fameuse interview il dit je ferai à la limite pour mes enfants s'ils veulent aller sur le stade, mais bon,
il n'y a pas une blessure aussi
il y a une blessure en fait, il voulait se préserver pour pas, voilà, s'il se blesse par exemple ça pourrait être difficile pour lui à son âge de retrouver d'autres clubs, mais c'est vrai que ça reste dommage quoi. Il peut au moins venir voir les copains, et puis le SCO peut peut-être aussi leur accorder un dernier hommage. Enfin, bref.
Ouais. Je sais pas si on a les infos, combien de temps chacun ils ont passé au club.
Traoré est arrivé en 2015 si je dis pas de bêtises, donc ça fait déjà
7 ans. Est-ce que Mangani serait pas arrivé plus tôt lui?
Thomas aussi je crois, mais en tout cas c'est Traoré, c'est un joueur qui a disputé 36 matchs sur 37 cette saison quand même.
C'est le capitaine,
cadre,
c'est
bien sûr.
Après, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que c'est une bonne chose le fait de changer, surtout des tauliers comme ça. Après, le fait de ne pas les garder, ça c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre. Alors, je pense qu'ils auraient pu par exemple les laisser sur le banc,
bien sûr,
une saison, après les laisser libres. Mais bon, c'est des gars qui sont en quasi fin de carrière.
Ouais, c'est pourquoi.
Mais moi, je trouve pas que ce soit une si mauvaise chose tel changement. Voilà, même si c'est des joueurs
c'est
très expérimentés. C'est plus la manière moi qui me dérange. Mais on a changé d'entraîneur cette saison. Il y a un nouveau staff. Ouais. L'équipe veut avoir plus de jeunes.
Bien sûr.
Je dis pas qu'ils sont nuls, loin de là. Mais le changement me dérange pas. Après, voilà, c'est comment il se fait que c'est un peu plus.
En fait, je pense que le problème justement sur la bannière, c'est que le SCO, notamment Saïd Chaban, a mis beaucoup trop de temps à gérer ces fins de contrat, parce qu'en fait c'est des joueurs qui arrivent en fin de contrat, donc c'est pas des joueurs qui vont être transférés, des joueurs qui sont en fin de contrat, et en fait ce dossier là ça a alimenté l'actu du SCO pendant toute la saison, et du coup ça arrive à des situations comme ça où on dit à la 37e journée passée, on leur dit finalement vous serez pas pris l'année prochaine, donc c'est un peu dommage. Et heureusement qu'il y a ce fameux dernier match à domicile, parce que peut-être qu'ils n'auraient pas pu pour certains faire un
match. Peut-être qu'ils attendaient justement que le maintien soit officialisé pour.
Peut-être aussi, ouais.
Mais officialiser ça
dans
aussi.
Dans tous les cas, je pense que ça aurait été bien aussi de leur rendre un dernier hommage.
C'était déjà acté avant.
Oui, je
dans
pense
tous
que
les cas, c'est
déjà.
Ça fait un moment que, de toute façon, on le sait, hein, c'est. Faut faire du dégraissage dans la masse salariale.
Oui, il y a aussi ça qui joue.
Là, ils en profitent sur des joueurs emblématiques du club. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, à notre connaissance, il n'y a aucune reconversion prévue dans le club.
Non, pas dans le club.
Non, je crois qu'ils vont tous quitter le.
Voilà,
ils vont tous continuer leur carrière ailleurs.
Traoré, il a dit je m'enlève pas de l'esprit potentiellement la retraite. Donc c'est possible pour lui. Okay. Enfin, il l'envisage. Il préférait évidemment jouer dans un club, mais c'est possible. Je crois qu'il est chef d'entreprise, donc apparemment il pourrait trouver sa voie ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que, comme tu le disais, il y aura pu avoir la voie pour des mecs qui sont là depuis longtemps.
C'est ça, auprès de centres de formation.
C'était le cas pour Charles Dier dans un autre registre à Angers.
Oui.
Mais par exemple, j'ai oublié son nom, Olivier Auriac, qui avait commencé à faire ses gammes en tant qu'entraîneur jeune à Angers avant d'aller à Brest cette saison. Ça pouvait être clairement une solution, clairement. Ouais.
En vrai, je pense que ces joueurs sont pas cramés totalement. Je pense qu'ils peuvent.
Ah non, bien sûr.
notamment Mangani, même Thomas, ils peuvent, je sais pas, par exemple, aider une équipe en Ligue 2 pour un objectif de montée, ou un tout petit club qui vient de monter en Ligue 1 qui a besoin de mecs d'expérience. Je pense que
ces joueurs-là, un club qui pourrait les intéresser, hein, je pense.
Bon, je pense, oui, je pense qu'il y a pas...
Retrouver leur ancien entraîneur.
Justement, il y a...
Ça a été apparemment dans les tuyaux.
Ces joueurs-là, ils ont des pistes justement dans les clubs de Ligue 2, donc comme Caen, évidemment, ça c'est le côté logique. Et puis aussi des clubs, je crois qu'il y avait Lorient qui était sur la tablette de certains joueurs, mais en tout cas...
Oui, c'est des joueurs qu'on continuera de voir.
Bah, surtout, c'est des bons joueurs, en tout cas, par rapport à notamment, si on parle en termes de pur rendement footballistique. Peut-être que Vincent Manceau était beaucoup plus sur le déclin ces dernières années, plutôt que Thomas Traoré, qui n'était pas, pour moi, Mangani aussi, qui avait réussi à retrouver sa place de titulaire. Mais
bon. Romain Thomas fait une bonne saison.
Oui, Traoré aussi, je trouve.
Je crois que c'est son record de buts cette saison. C'est un des défenseurs de Ligue 1 qui met le plus de buts, je crois.
Pas cette saison.
Peut-être la saison dernière, tu as raison.
Justement, pour Romain Thomas, c'est sa 9e saison en scout. Donc voilà, il arrive en 2013, c'est assez énorme.
Que le club ait envie de changer d'effectif, je veux bien comprendre, mais le fait de ne pas respecter des mecs qui ont passé une décennie au club, bon...
S'ils arrêtent leur carrière, en soi, ça ne va pas être dérangeant, mais si derrière, ils retrouvent un club, ils partent libres.
Ouais.
Donc il n'y a pas d'argent qui rentre... pour la saison prochaine.
En fait, malheureusement, ils font l'économie sur les salaires. Donc, mais si tu baisses les salaires, c'est que tu prends des joueurs moins forts.
On en a vaguement parlé, mais il y a aussi ce projet qui est techniquement incompréhensible au vu de la situation des comptes du SCO, l'investissement dans Tours.
Bien sûr, dans le club de Tours.
Élargir la formation des jeunes dans la région et les alentours.
D'accord.
Officiellement, c'est le groupe SCO qui va devenir actionnaire dedans. Mais c'est quoi le groupe SCO au final ? C'est le club. C'est l'argent du président, c'est l'argent des actionnaires. Donc, c'est bien d'aider effectivement des Tours. Si ça peut leur permettre de se développer aussi, d'avoir un meilleur niveau. Mais quand on sait que l'année dernière, on a eu chaud avec la DNCG,
ouais,
que l'année prochaine, c'est quasiment acté qu'on risque d'avoir des soucis. Hein. Le dossier, à mon avis, passera pas du premier coup. Alors s'il passe du premier coup, on aura sûrement encore plus d'inquiétudes, je pense, en termes de recrutement. Et puis même pour la saison qui en découlera. Donc... Non, j'avoue que, de la part de la direction, et puis bon, il y a ces fameux procès qu'ils ont perdu au Prud'homme aussi,
c'est
beaucoup de choses qui n'ont pas été anticipées cette année.
5 procès en cours, ou en tout cas dans l'histoire récente du club, sont soit passés, soit en cours, et mine de rien, c'est les amendes que le club va devoir payer de sa poche. Ouais.
Déjà deux gros qui sont passés, quoi.
Et aussi un autre truc que... aspect du marché des transferts qu'on n'a pas abordé, c'est les départs potentiels. Mohamed Ali Chow, il y a des chances qu'il parte.
Ouais, justement, je voulais rebondir là-dessus.
Peut-être même des Fulgini qui étaient il y a 6 mois ou même un an, qui étaient poursuivis en Allemagne ou aux Pays-Bas, même, je crois. Et voilà, il y a des joueurs comme ça qui risquent de partir. Donc, si on perd nos jeunes joueurs très bons et qu'à côté, on libère nos mecs d'expérience qui sont aussi très bons parce qu'on veut gagner, on veut reprendre leur salaire, avec quoi le SCO va se retrouver l'année prochaine, ça peut vraiment faire peur.
Ça, c'est sûr.
Il y a peut-être au moins un gardien qui va être vendu.
Ouais.
Je pense qu'il va rester à Saint-Etienne, quoi qu'il arrive. Il a eu du temps de jeu, donc même si Saint-Etienne reste pas en Ligue 1.
Si Saint-Etienne va en Ligue 2, je le vois pas rester à Saint-Etienne.
Il aura du temps de jeu. Il y aura du temps de jeu, il y aura un projet.
Bernard Denis, tu veux dire ?
Pour qu'il reste à
Saint-Etienne.
Moi, je le vois bien rester à...
Après, tout dépend de si Saint-Etienne reste en Ligue 1.
Ouais, Saint-Etienne va en Ligue 2, ils ont besoin d'un gardien.
Oui, mais après, de l'expérience.
Après, j'oublie tout le temps le nom du goal du SCO, là.
Mandrea,
voilà. Je pense et j'espère qu'il sera titulaire l'année prochaine.
On a déjà recruté un gardien. C'est il y a Fofana, le Havre qui est un très jeune joueur et qui a fait une excellente saison et qui est annoncé en tout cas comme numéro 1. Mais le problème, c'est que encore une fois, Osko, je pense qu'il y aura ce problème. Tu le disais, Mandrea qui fait une très grosse fin de saison et les deux vont être en concurrence. Alors que.
Je pense que Bernard Denis, ce serait un point en trop. Parce que là, c'était un prêt de 6 mois à Saint-Étienne.
6 mois, ouais. Avec option d'achat, je crois.
Option d'achat.
Ouais.
Bon, si le SCO peut récupérer un peu d'argent, mais on a, je crois, c'est 13 millions d'euros que le SCO a acheté Bernard Denis. C'est le plus gros transfert de l'histoire du club.
C'est très cher, ouais.
Au final, il fait n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, c'est pas un gardien que je déteste, mais pour le prix qu'il a coûté, on l'a prêté au bout de 6 mois.
Non, de 1 an et 6 mois.
D'un an et 6 mois, pardon. Enfin, c'est encore un. Moi, je comprends pas la stratégie du SCO là-dessus. Et donc, tu vois, si on le vend, on va le vendre 5 millions.
Moi, je suis plus étonné de. Justement, de l'avoir fait prêter au bout de. Pour moi, il a été prêté trop vite. Il n'a pas non plus été catastrophique. Non. C'est juste que Petkovic en a profité quand il s'est blessé. Mais sinon, personnellement, je.
Bah, c'est même comme Sadatube qui a fait le même chemin qu'il a été prêté à Saint-Étienne.
C'est une autre question épineuse. C'est que pareil, donc, il y a Sadatube, Bernardoni, il y a Bobichon, je ne sais pas si ce nom vous redit quelque chose, mais il est en prêt. Je crois qu'il y a El Melali qui est en prêt également. Donc ça fait, je crois qu'il y a 5 joueurs en prêt en tout au SCO. Et au final, ces joueurs-là, on va faire quoi quand ils vont revenir s'ils ne sont pas conservés par leur club? Ça restera encore des salaires. Pareil, j'ai sous les yeux du coup Mangani. Déjà, c'était un tireur de penalty, donc ça on peut le signifier. Donc c'était quelque chose aussi d'intéressant et de coup franc. Il est là au club depuis 2015. Il était aussi là donc pour la montée comme justement nos amis Romain Thomas et Ismaël Traoré.
Et surtout un truc qui va jouer, c'est que le fait de virer comme ça 3 tauliers du vestiaire, le vestiaire comment les autres joueurs vont réagir.
Bien sûr.
Quel changement il y aura dans le vestiaire? Est-ce que le discours du coach arrivera à surpasser ça?
Non, mais déjà, est-ce que le coach est d'accord, tu vois?
Déjà, est-ce que tout le monde est content dans ce club pour ses décisions?
Peut-être que je pense que la ligne directrice, après, ça paye ou ça paye pas. La ligne directrice, c'est d'avoir des joueurs jeunes. Je pense que c'est ça. Et c'est pour ça qu'on voit 3 trentenaires s'en aller et qu'il y a des rumeurs sur des joueurs qui sont plutôt jeunes. C'est parce que je pense que Baticle veut accentuer sur les jeunes.
Et en soi, c'est une bonne stratégie.
Est-ce que ça marche ou pas? Par exemple, si on prend un autre sport, le AB, c'était un effectif très jeune, ça a marché parce que les joueurs sont de la même génération et c'est plus vivable déjà dans la vie de groupe. Ça peut être quelque chose d'intéressant après sur le football.
Dans tout club, tu as besoin d'un certain équilibre d'âge aussi. Bien si tu n'as que des jeunes, ça ne tiendra jamais.
Est-ce que c'était la bonne année pour le faire?
Voilà, ça va peut-être en faire partir 1, 2 et les 3 d'un seul coup.
La saison prochaine, il y a quand même 4 descentes.
Ouais. Mais
c'est
l'année prochaine. Ouais.
Ah ouais, c'est ça.
Il y a les 4 descentes.
3 descentes plus un barrage.
Non, je crois que c'est 4 directs.
Direct.
Je crois que c'est 4 directs.
Ah oui, c'est la Ligue 1 à 18 équipes après.
Ouais.
Moi j'ai. En vrai,
ça va être beau.
Ouais, ça va être compliqué. Et il y a un autre aspect par rapport à l'effectif du SCO que je trouve intéressant. C'est la faiblesse de notre attaque. En tout cas, je trouve, à part Boufal. Finalement, on n'a pas d'autres avançantes.
On a vu quand il était absent. Ouais,
je suis d'accord. On a donc du coup Ninga. Bon, voilà. Baoken, pareil. Jacolis, la recrue croate qu'on a vu, toujours pas un but. Ça va devenir compliqué. On l'a dit, il y a des joueurs qui vont peut-être revenir, peut-être pas. Moi, l'attaque me fait peur au niveau du SCO et surtout si Mohamed Ali Chaud s'en va. Boufal, alors il n'est pas dit qu'il s'en va, il n'y a pas de grosses rumeurs, mais avec la saison qu'il vient de faire, pourquoi pas? S'il y a quelqu'un qui sort un chèque, il faut être honnête, il partira. Puisqu'il est venu ici pour se relancer avant tout, il n'est pas venu ici pour.
Il y a les internationaux aussi en vue des sélections en Coupe du Monde.
Ouais, alors ça concerne qui? Est-ce que ça concerne beaucoup de monde? Je ne sais pas.
Bon, au niveau des sélections africaines, on a peut-être pas mal.
Traoré, du coup.
Traoré, c'est du coup, il est plus là.
Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Traoré n'est plus là. Unai,
Boufal, s'il reste. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? J'en avais un.
Est-ce qu'on a été pas mal impacté aussi pendant la CAN?
Par contre, c'est vrai, ouais.
Ninga, non, je crois pas.
Ninga, le chat, non, c'est...
Il n'a pas fait la CAN.
Après, je ne sais pas si... dans les joueurs qui étaient à la CAN si leur équipe sont...
Bauken, il a fait la CAN.
Bauken, il a fait la CAN, donc ouais. Ça peut être une option. Et Boss, le jeune latéral.
Et surtout, un point aussi qui peut aller dans le sens, et j'espère que ça va se passer comme ça, c'est impliquer les jeunes du centre de formation.
Bien sûr.
Parce que les U19, les U21 du SCO, ils font partie des meilleures équipes en France.
Bien sûr.
Il y a des jeunes joueurs ces dernières années qui intègrent le groupe pro, mais c'est encore trop timide. Donc j'espère que si les vieux dégagent,
il y a eu la Youth League
qui a démontré tout le talent du centre de formation du SCO. Donc Abatik, surtout lui qui a un vrai impact sur les jeunes et qui arrive à vraiment développer des jeunes, bah j'espère qu'il va intégrer ces jeunes à l'équipe pro pour pouvoir développer un autre projet du SCO, parce que se maintenir à la 37e journée, c'est pas tenable.
On peut donner un exemple de ça. J'en ai parlé dans une chronique dans l'émission Topette sur le sport en juin, et notamment donc je faisais une chronique sur les jeunes du SCO, et il y a un jeune joueur qui est très prisé en ce moment, qui est dans les championnats U17, et qui s'appelle Jean-Matteo Baoya, et qui est à 30 buts en 25 matchs. C'est assez énorme, et c'est vraiment quelqu'un que le SCO veut absolument faire signer, et ça peut être comme un Mohamed Ali Chou, quelqu'un qui peut rentrer très très tôt dans le groupe. Mohamed Ali Chou, c'est un joueur qui est rentré quand même à 16 ans pour son premier match en Ligue 1, donc ça peut être les projets de certains jeunes.
Puis il y a aussi un jeu Zinedine Ould Khaled qui avait joué quelques minutes en pro,
peut-être
en coupe, c'est des joueurs qui performent tous les week-ends en jeunes, et
Kevin Boma qui
s'entraînent avec les pros et qui peuvent prétendre. Voilà.
Donc
ce sera à suivre cet été, et j'espère pour le coup que le SCO ira vers cette stratégie.
Mais moi je redoute justement par rapport à ça ce manque de qualité. En fait, il faut voir comment les événements vont se passer. On verra ça pendant cet été. Mais je redoute un peu ça, parce que il y a des gros joueurs qui vont certainement partir, et derrière on prend qui.
Même un Bouffal, hein, c'est vrai.
Ça va se jouer sur les paris. Ça va jouer sur, entre guillemets, les paris que Batik va prendre dans les choix machin. Les choix de jeunes, etc. Donc,
D'ailleurs, on ne l'a pas officialisé, mais c'est quasi sûr. Hein, le SCO devrait recruter Mbappé. Il n'a pas voulu le dire au trophée UNFP.
Tu t'es trompé d'émission, ce n'est pas les trophées UNFP, là.
Ah mince, peut-être
non. Tu t'es trompé, là. C'est pas du genre de la maison de.
Ah, non. Cédric m'a dit qu'il voulait faire une chronique à la Adil Rami à la pause du Zika.
Oula.
Oula, j'appelle Jean-Mimi.
On n'a pas posé la question à Faustin. Faustin, tu suis un peu le SCO, toi. T'en as déjà parlé un peu.
Ouais.
Tu suis autour de l'année. T'en penses quoi justement de cette saison qui arrive plutôt, cette saison prochaine?
Bah, c'est clair que s'il n'y a pas de nouvelles recrues ou de choses comme ça, ça va être compliqué. S'il n'y a pas de jeunes talents, justement venus du centre de formation qui se dévoilent. Si on perd quatre anciens joueurs qui étaient des piliers, ça va être compliqué de se maintenir, surtout s'il y a quatre équipes qui descendent. Voilà.
Donc voilà, messieurs, quelque chose à rajouter par rapport à au SCO peut-être?
Non, je pense qu'on a fait le tour.
Si, ouais. Moi je pense aussi ce serait bien justement Ismaël Traoré qui voulait pas venir. Il faudrait qu'il vienne parce que le COP du SCO, il va fêter ses 30 ans. Ils ont prévu de grandes choses. Ils ont sorti un teaser sur Instagram. Et ce sera sûrement une grande fête dans les tribunes.
Ouais, donc ouais, ça peut être intéressant. Puis même,
à voilà, tarif réduit en plus pour le dernier match.
Ah bah tant mieux. Surtout qu'il compte pour du beurre pour les deux équipes, donc tant qu'à faire. C'est limite un match amical. Donc autant en profiter.
C'est même limite, ça prépare la saison. Hein.
Oui, peut-être.
Parce que mine de rien, début août, on sera quasiment.
Dans
l'ouverture de la saison.
Ouais, c'est ça. Donc, oui. Et c'est vrai que les adieux, surtout pour moi, de Thomas, de Mangani et de Traoré, seront intéressants à scruter pour les supporters angevins, pour voir comment ils sont traités par le SCO. On espère qu'ils auront les mêmes adieux déchirants qu'un autre club avec des rayures blanches et noires qu'on a pu voir notamment hier avec Dybala et Chiellini en pleurs. Je ne sais pas si ce sera la même émotion au stade Raymond Coppa. Ça
m'étonnerait quand même.
Ça m'étonnerait effectivement.
Il y a une inondation, Chiellini?
Quoi?
Est-ce que c'était
une inondation qui... Ah oh.
Oui, je l'ai eu.
Il a la ref.
Merci Adil.
Référence évidemment. Kellini à Angers. Voilà.
Tout ça, fin de la ref.
Voilà. Nous aussi on a notre Kellini. Bon, on va passer à la pause musicale. On va s'écouter le titre de Drake, God's Plan, et on revient juste après.
wish, and I wish, and I wish, and I wish, and they wishing on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, hey, no. Hey. Someone watching it close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Row, hey, bro, hey. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, hey, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah.
De retour dans Génération Sport, votre émission sportive de Radio G. Vous nous écoutez sur le 101.5 FM de Radio G ou bien sur le site internet www.radio-g.fr. On est toujours donc avec la fine équipe. Voilà, pour maintenant parler des actus internationales. Max, qui commence pour parce qu'il y a pas mal de choses à dire.
Oui, on a pas mal de trucs à dire. Je vais peut-être commencer histoire de parler d'abord de foot et on va mettre de côté le foot après, parce que c'est vrai qu'on a déjà pas mal parlé. On va récapituler la 37e journée de championnat. Reims a battu Saint-Etienne 2-1. Saint-Etienne est toujours 19e du championnat. La relégation n'est pas officialisée comme pour Bordeaux, mais ça va être un miracle pour que les Stéphanois et les Bordelais se maintiennent en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-0 face à Montpellier, pareil, rien à jouer. Metz a battu le SCO 1-0. La grosse surprise, en tout cas, peut-être le match avec le plus d'enjeux, c'était Rennes contre Marseille, et les Marseillais ont perdu 2-0. L'OM qui laisse donc sa place de second à Monaco. On reviendra sur le classement plus tard. Strasbourg a battu Clermont 1-0. Lyon a battu Nantes 3-2. Bordeaux et Lorient se sont quittés sur un 0-0. Monaco a battu Brest 4-2 dans un vrai bon match de foot. Lille a battu Nice 3-1. Et Lens a battu 3-1. Donc oui, au classement, Monaco se retrouve deuxième devant l'Olympique de Marseille avec juste une différence de but supérieure. Rennes 4e, Strasbourg 5e, Nice 6e, Lens 7e. Voilà les équipes qui peuvent jouer l'Europe. Voilà, c'est tout. Et puis donc, comme on l'a dit, Metz 18e, Saint-Etienne 19, Bordeaux 20. Alors j'ai peut-être dit une bêtise, Metz et Saint-Etienne sont à égalité de points. Si Metz gagne, Metz reste, enfin, sera barragiste. Par contre, donc voilà, Saint-Etienne n'a plus son sort entre les mains. Et pareil, Bordeaux, il faut que Saint-Etienne et Metz perdent et que Bordeaux gagne pour qu'ils se maintiennent en Ligue 1. Donc ça tient du miracle. On avait aussi eu droit à une superbe cérémonie des trophées UNFP. Alors, on va pas revenir sur tous les prix, parce que déjà, je les ai pas sous les yeux. Et de deux, est-ce qu'ils sont tous intéressants? Je suis pas persuadé. À noter, bon, Kylian Mbappé qui a été élu meilleur joueur de l'année. Voilà,
c'est pas discussion.
Je pense pas qu'il y ait eu de débat. William Saliba.
Le seul débat, c'est vraiment le terme meilleur joueur de l'année. Plutôt, quand tu vois le nombre de représentants, c'était que des attaquants.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Il pourrait renommer ça meilleur attaquant de l'année, quand même.
T'as raison, c'est malheureusement, on le sait, le foot, les stats sont beaucoup
plus prises
en compte. Un peu trop, mais oui, t'as raison de soulever ce
problème. Hormis Payet, qu'on peut considérer comme milieu de terrain.
Ouais, mais c'est vrai Paqueta que... aussi.
Ouais,
c'est vrai que...
Oui, c'est vrai qu'il est payé, mais quand même des
milieux offensifs, quoi, qu'on laisse.
Ouais, voilà, c'est...
William Saliba qui a été le meilleur, meilleur jeune de la saison. Là, pareil, pas trop de débats. Un qui va faire débat, c'est Donnarumma, qui a été élu meilleur gardien avec 16 matchs en Ligue 1.
Ouais.
C'est sûrement la meilleure blague de la cérémonie. Hein. Et pourtant, il y a eu Adil Rami qui a fait un sketch. Donc
assez hallucinant, parce que surtout que c'est les joueurs qui ont voté, apparemment.
Ouais,
donc, comment les joueurs ont pu voter pour un mec qu'ils n'ont même pas vu une fois?
Il
y en a qui
n'ont
même pas joué contre Donnarumma cette saison, vous dire.
Ils veulent tous signer au PSG.
Non, mais il y avait d'autres gardiens qui étaient largement
au-dessus.
Ouais,
même un Lafond pour moi. Individuellement, en tout cas.
Et même au sein du PSG, au final.
C'est même pas le meilleur joueur de son... C'est même pas le meilleur gardien de son club. C'est vrai.
Alexandre Letellier, enfin...
Évidemment.
Franchement.
Si on continue sur les récompenses, Bruno Genesio qui a été élu meilleur entraîneur, je pense que c'est mérité. Il y a d'autres entraîneurs qui le méritaient.
Pour le coup, mérité, pas de souci. Par contre, ils auraient peut-être du coup, ça fait partie des récompenses où tu te dis, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas pu attendre la fin de saison? Parce que si Rennes va en C4, c'est.
Ouais, mais au but de tout le parcours, c'est. Enfin, pour une première année complète.
Même ouais, bien sûr, mais par contre, il y avait du jeu, il y avait la meilleure attaque de Ligue 1.
Je suis tout à fait d'accord, c'est que cette cérémonie-là, elle pourrait très bien être faite dimanche prochain.
Bien sûr que oui.
À une semaine près, ça change pas grand-chose. Quoi.
Et puis, on va terminer la page foot avec l'équipe de l'année, donc à cette cérémonie UNFP. Donnarumma, évidemment. Nuno Mendes, Marquinhos, côté parisien en défense. William Saliba et Jonathan Klaus. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Fofana et Dimitri Payet en attaque. Mbappé, Ben Yedder et Terrier. Là, pareil, pas trop de. Grosse surprise, à part peut-être Donnarumma et Marquinhos, que je trouve pas
Marquinhos,
archi favori.
T'as aimé qui, toi?
Non, je sais pas, un titre individuel, peut-être un Dante qui m'a plus surpris cette saison. Marquinhos, Marquinhos, je trouve que c'est sa pire saison depuis des années, donc je sais même pas ce qu'il fait là, mais ouais. C'est Marquinhos. Il est brésilien,
ils étaient à deux doigts de mettre Ramos, donc. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'il y a un autre fait. Bon, ils n'ont pas mis Neymar et Messi, mais c'est quand même assez notable.
Bizarre.
Non, mais de se dire, quand même, ça montre leur saison, qui est quand même assez en dessous de leur standing. Des joueurs comme Neymar et Messi dans notre championnat qui ne sont même pas.
Au moins, ils ont été
dans les trois meilleurs
attaquants. Ils étaient en accord avec la réalité des faits.
Non, mais par contre, ça, je veux dire, ça met en lumière la très mauvaise saison.
Après, de toute façon, enfin. Cette cérémonie-là, elle était juste là pour faire des vues à la télé. Hein. Ça a toujours été et ça restera, je pense.
Et puis, ouais, voilà, c'était pas une grande soirée en termes d'animation.
Ouais.
Il y a eu.
Malaise TV.
C'est ça, ouais, quand il y avait des vermis.
Le seul truc limite qui a été marrant, c'est plus les interventions en fait de Thierry Henry au final.
Oui, en vrai, bah qui a défendu Mbappé quand il s'est
qui a réagi sur la fameuse image où il est en mode mais qu'est-ce que je fous là avec Aulas le soir du fameux match contre Marseille. Enfin, mais sinon, ouais, non, c'est enfin limite. Faites ça en une heure, hein, c'est bon quoi.
Oui, bah oui, non, c'est assez c'est triste. Après, voilà. Au niveau des récompenses, à part de Norma, il n'y a pas de grosse contestation. On enchaîne, messieurs, on ne peut rien à rajouter sur le sujet. On enchaîne justement avec le tennis. Il y a trois petites infos. La première, c'est l'Angevin Clément Tabur hein, de l'Angers Tennis Club qui a été éliminé au premier tour des qualifications de Roland Garros par son compatriote Chine Kuenin en 3-7. Autre info qui concerne un joueur français, Gaël Monfils est forfait. Il a déclaré forfait pour une première fois donc, l'Open de Lyon qui est cette semaine. Il était déjà qualifié pour le deuxième tour. Il a donc déclaré forfait, mais aussi pour Roland-Garros. Donc voilà, un favori français en moins dans ce tournoi. Et puis une info qui est tombée voilà, juste avant l'émission. C'est un sacré exploit de la part d'un pionnier du tennis français, c'est Richard Gasquet, avec son magnifique revers à une main, qui vient de battre le numéro 1 mondial russe, Daniil Medvedev, 6-2, 7-6, au second tour du tournoi ATP 250 de Genève. Donc voilà, c'était vraiment une très grosse performance de la part de Richard Gasquet, qui se rassure évidemment avant ce tournoi du Grand Chelem.
Oui, tournoi de Roland-Garros qui va arriver très très vite ce dimanche pour le premier tour. On va parler cyclisme maintenant avec le Giro, puisque aujourd'hui il y avait la 10e étape de ce Tour d'Italie entre Pescara et Jesse, et c'est l'Érythréen, je vais essayer de pas écorcher son nom, c'est l'Érythréen Binyam Girmay qui a remporté donc cette étape au finish juste devant Van der Poel, pardon, et l'Italien Vincenzo Albenese. Et je sais pas si vous avez vu, mais malheureusement Girmay, le vainqueur de cette étape, a reçu un bouchon dans l'œil lors de la cérémonie, et il est actuellement à l'hôpital.
Oula.
En hospitalisation. Donc il n'y a pas que dans les stades de foot qu'il y a des gros cons, hein. vous me permettez le terme,
ça a été jeté par
Ouais, je pense que ça a été alors j'ai pas vu les images, mais je pense pas qu'il se soit mis un bouchon volontairement dans l'œil. Alors par qui ça a été jeté, je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est des images qu'on n'aime pas voir. Et pour parler du classement général de ce Giro, justement, c'est Juan Pedro Lopez, l'Espagnol, qui est en tête du classement général à 12 secondes devant Joao Almeida, pardon, et Romain Bardet en troisième position avec 14 secondes de retard, voilà, en ce qui concerne ce Tour d'Italie.
On va enchaîner avec le basket et on aura l'avis de notre expert NBA, Faustin. Grosse déception hein, pour l'équipe des Suns de Phoenix après la défaite en match 7 à domicile 123-90 contre les Mavericks de Dallas et un énorme Luka Doncic. Toi qui avais pronostiqué une excellente saison du côté de Phoenix, il y a une petite déception après cette lourde défaite?
Clairement, c'était tellement inattendu. Mais bon, après, Luka Doncic a tellement bien joué et les Suns ont tellement mal joué, notamment Chris Paul, qui devait mener son équipe pour enfin décrocher sa bague. Je crois que dans ce match, j'ai pas les stats, mais il a fait 10 points, 1 rebond, 4 passes décisives. C'est très loin de ses standards. Ils ont été très décevants dans ces playoffs, alors qu'ils ont largement dominé la saison régulière.
Voilà, une déception pour une équipe favorite. En finale de conférence Ouest, les Mavericks joueront donc les Warriors de Golden State. De l'autre côté des États-Unis, à l'Est, le Heat de Miami, qui s'est défait des Sixers de Philadelphie, affrontera les Celtics de Boston, tombeurs des champions en titre, les Milwaukee Bucks. Rapidement, tes pronostics pour chacune des rencontres, Faustin?
Moi, je mettrais à l'Ouest Golden State, qui, je pense, sont favoris. Ils ont bien joué face à Memphis. Mais Dallas, il faut faire attention parce qu'ils ont aussi très bien joué face à Phoenix. Et sinon, à l'Est, je mettrais Boston. Miami, qui jusque-là n'a pas eu trop de problèmes face aux équipes qu'ils ont rencontrées. Boston, eux, ils ont un parcours beaucoup plus compliqué. Ils ont réussi à sweep Brooklyn avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Et là, ils sont défaits de Milwaukee en Game 7 aussi. Et c'était pas facile pour eux. Jason Tatum a été très bon. Je les vois favoris.
Très bien. Max, à ton tour.
Oui, justement, je voulais revenir sur l'info que j'ai dit avant. J'aimerais m'excuser, évidemment, mea culpa. Il n'y a que dans les stades de France où il y a...
D'accord.
Non, alors en voyant les images, il s'est. En fait, la bouteille de champagne qui est réservée au vainqueur de l'étape, en fait, il l'ouvre mal et malheureusement, il se prend le bouchon en plein dans l'œil. Par contre, il est vraiment hospitalisé, ça c'est...
Oui, d'accord.
Ouais, donc, voilà. Sûrement un cornic qui a pris, oui.
Et c'est surtout... Ça ne servait à rien d'insulter quelqu'un.
Voilà, donc les supporters de cyclisme en ont pris pour eux. Voilà,
toi, t'as toujours pas digéré la première étape du Tour de France ou la deuxième l'année
voilà,
dernière.
Voilà, c'est ça, t'as tout compris. mais aussi, il y avait un truc assez hallucinant, c'était que c'est le premier Africain avoir remporté une étape sur un tour majeur. Ouais. Donc malheureusement, il n'a pas pu fêter ça. Exploit quand même dans le cyclisme.
Il s'est mis KO.
Ah bah, il s'est mis KO.
La transition, oh là,
En parlant de KO, un qui a failli avoir un KO dès le premier round, c'est Tony Yoka, qui combattait face au Congolais, République démocratique du Congo, Martin Bakole. C'était samedi dernier à la Corotel Arena, Paris-Bercy, il me semble.
Ouais,
c'est ça. Et Tony Yoka qui a subi sa première défaite en boxe professionnelle. Donc Tony Yoka, on le rappelle, champion olympique de 2016. Il perd au point, je crois.
Mais dès
le premier round, le KO, il est pas loin. Toi, Cédric, qui a peut-être vu le combat.
Ah, j'ai revu le match parce que déjà, j'avais zappé qu'il y avait le combat. Comme quoi, on s'intéresse à la boxe en France. Franchement, le coup qui se prend au premier round, ça le met KO, arcade, tout. Enfin. Ouais. Il s'en prend un deuxième, je crois, dans le troisième ou quatrième.
Rien que le premier, il passe 7 secondes, 8 secondes.
Et derrière, enfin, il se fait dominer. Après, c'est pas surprenant. Hein. Là, on a quand même un ancien partner de l'actuel champion.
Et puis, c'est peut-être le meilleur adversaire qu'il a affronté jusque-là.
Donc, clairement.
C'était son 12e match, c'est ça?
C'était le 12e,
12e match, donc 11 victoires.
Mais vraiment le premier match de haut niveau.
Hein. Oui, Bakole qui est classé mondialement, qui est même très bien classé mondialement, donc défaite logique.
Avant d'embrayer rapidement sur la chronique de Faustin, un petit mot de handball. C'était la semaine dernière la Ligue des Champions, les quarts de finale aller. Le PSG a fait match nul contre Kiel, face aux Allemands de Kiel. Et puis Montpellier a perdu à domicile contre les Polonais de Kielce. De 3 buts, 31-28. Match retour cette semaine. Du côté de la France, il y avait la Coupe de France, justement les demi-finales de Coupe de France. Ce week-end, le PSG était engagé et s'est extirpé de ses demi-finales pour affronter en finale Nantes. Et voilà la finale de Coupe de France qui est à suivre donc, entre ces deux gros clubs majeurs en France. On va enchaîner tout de suite avec une rubrique de Faustin qui ne va pas parler basket, mais qui va parler d'une discipline tout aussi intéressante qui est l'e-sport, dont on parle peu dans les médias, mais ici on a eu l'occasion par le passé d'en parler. Donc je vais te laisser la main, Faustin. N'hésite pas à parler bien près du micro, s'il te plaît. Et voilà, je te laisse la main.
Ouais, je vais vous parler d'e-sport. Qui dit e-sport dit évidemment jeux vidéo. Donc je vais demander à vous, les gars, autour de la table, est-ce que vous jouez régulièrement ou pas du tout à des jeux vidéo ?
Alors, moi...
Jamais.
Régulièrement, non plus trop. Mais oui, je joue depuis des années et je continuerai de jouer pour toujours, je l'espère.
Moi, pas trop. Mais je jouais un petit peu avant. Toi, Cédric ?
Ah non, moi j'ai.
T'as pas le t-shirt plus.
Je n'ai pas un t-shirt de la GDQ sur moi. je n'ai pas un événement caritatif bientôt ce week-end qui est lié aux jeux vidéo. Non. Moi, le jeu vidéo, je connais pas.
Hein. c'est pour ça, Faustin va.
Voilà, il va m'éclairer.
Tout à fait. Donc, l'e-sport, qu'est-ce que c'est ? C'est des compétitions de jeux vidéo qui peuvent jouer soit en LAN, c'est-à-dire que les équipes se rencontrent dans une même salle pour s'affronter, ou bien en ligne, comme celle dont je vais vous parler. Donc, je vais vous parler des EU Masters de League of Legends qui peuvent se comparer à la Ligue des Champions, entre autres, européenne, donc évidemment. League of Legends, qu'est-ce que c'est ? C'est deux équipes de 5 joueurs. Qui choisissent chaque joueur choisit un champion parmi plus de 100 disponibles. Ils s'affrontent ensuite sur une carte qui ne change jamais. Ces joueurs s'affrontent dans le but de tuer les adversaires pour pouvoir avancer sur la carte en détruisant des bâtiments. La partie se finit lorsque l'une des deux équipes a détruit le bâtiment principal adverse, appelé le Nexus. Donc... Donc je vais vous parler des résultats où les équipes françaises ont vraiment brillé lors de ces EUM en qualifiant 3 de leurs équipes en demi-finale, sachant que les 3 équipes qui se sont qualifiées avaient d'abord fini premier de leur poule respective. Donc ils sont ensuite imposés facilement tous en quart de finale, par exemple 3-0 pour les LDCOL, 3-1 pour la Carmine Corp et 3-0 pour les Vitality B. Après ça, donc on était sûr d'avoir au moins une seule équipe, au moins une équipe française en finale, car un duel fratricide a eu lieu qui opposait les Vitality Bee à la Carmine Corp. C'est la Carmine Corp qui est sortie vainqueur de ce duel 3-2. Et ils ont donc affronté les LDLCOL qui sont eux imposés 3-0 en demi-finale face à l'équipe polonaise de Agorog. La finale sera donc 100% française et c'est la Carmine Corp qui s'impose à 3-1 pour la troisième fois d'affilée. Ils ont donc réussi pour la première fois dans l'histoire de ces EU Masters un back-to-back-to-back. Voilà.
Donc, un peu comme le Real en Ligue des Champions à une époque. C'est
exactement.
Ça.
En tout cas, oui, au niveau français actuellement, la K-Corp, c'est vraiment...
La K-Corp.
C'est une des équipes...
On peut que saluer le boulot de...
De Kamito.
De Kamel, de Prime, et Prime qui ont développé de manière très rapide et surtout de manière impressionnante l'e-sport en France.
Efficace, ouais, surtout.
Et c'est un super truc parce que c'est vrai qu'on en parle depuis des années que l'e-sport, c'est... ça devrait être plus reconnu en France. Et là, cette année, on a vu des médias comme l'équipe consacrer des unes.
C'est pas comme si pendant les élections, on a vu un président avec un sweat Vitality. Hein.
Oui, et puis on a même eu un serveur spécial Macron sur Minecraft, par exemple.
Voilà. Donc, il est branché, ce président.
Donc, c'est trop bien que le jeu vidéo et que l'e-sport se démocratisent.
Oui, voilà, ça commence ça.
Ouais. Mais il y a un joueur aussi, ils ont ramené des joueurs phares comme Reckless. Ça c'est aussi ça montre qu'à la fois déjà l'e-sport prend les rouages des autres sports avec des transferts machin, avec des joueurs qui sont stars aussi, et donc surtout les bons recrutements des Français comme Kameto et Prime.
Et puis là on a parlé que de League of Legends, mais il y a plein d'autres jeux, je pense à FIFA notamment, et voilà d'autres jeux comme ça. Et
dans tous les gros jeux actuellement, on a une équipe française qui est soit déjà bien présente, soit qui vient juste d'être créée.
À l'époque sur Fortnite, on avait des joueurs pros qui cassaient tout, et même des très très jeunes. Et même au-delà de ça,
dans le jeu de combat, pareil.
Et même au-delà de ça,
on est bien présenté.
Les événements comme le The Event, tous les événements caritatifs autour du jeu vidéo qui lèvent de plus en plus de fonds, tout ça, ça permet la démocratisation du jeu vidéo et de l'e-sport. Et c'est un super truc pour le paysage sportif ou même audiovisuel en France.
Justement, tu parles d'événements caritatifs, j'en profite.
C'est ton moment.
C'est voilà, non, tu m'as fait la passe d'aise. C'est un événement qui peut toucher tout le monde. Donc c'est un de mes amis streamers, NMV, qui m'a parlé de ça. Donc en Belgique, dans la ville de Mons, va avoir un événement en présentiel pendant 24 heures pour l'association Le Relais pour la vie. C'est une association qui aide les familles à passer le cap, à les aider aussi à se préparer. Hélas, des fois, on sait tous au décès d'une personne atteinte du cancer. Donc c'est une association belge. Donc il va y avoir un événement sur place pendant 24 heures. Donc il y a des gens qui vont se relayer pour assurer tout ce qui est logistique. Il y a des sponsors qui les aident. Il y a aussi pas mal d'ateliers de sensibilisation, des concerts. Enfin, il y a pas mal de choses. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'il y a un droit d'entrée d'une dizaine d'euros, argent qui va aller donc à l'association. Et à côté de ça, il va y avoir un marathon caritatif pendant 24 heures. Et du coup, ça va être comme en présentiel, ça va être le but de récupérer un maximum d'argent. Donc, j'ai pas encore les horaires, mais je crois de mémoire, c'est début samedi vers 15h. Et ce sera jusqu'au dimanche, à peu près 15h.
Donc, tu te sens de tout faire, de faire ces 24 heures.
Je ferai pas sûrement 24 heures, mais. Quoique. On sait ce que ça peut, ce que je donne sur un marathon, mais. Non, mais en tout cas, moi j'y serai. Pour l'instant, peut-être que je streamerai. En tout cas, je serai sur les streams des copains à soutenir. Vous pourrez donner. Le but aussi, à travers ce live, c'est de faire connaître l'association aussi un peu à l'international. De toute façon, la maladie n'a pas de frontières. Il n'y a pas de petits dons. J'ai envie de dire, si vous avez un euro... et que vous avez envie de le donner, donnez-le, ça fera toujours ça, puis 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1.
Il y a aussi ce truc de pas se sentir obligé.
Non, il y a aucune obligation. Voilà, hein. Même le fait de venir sur les différents streams, d'en parler, de relayer sur les réseaux sociaux, de partager, ça aide aussi à faire connaître l'organisation, sachant que dans tout l'argent qui va être récolté, il y aura une somme aussi qui sera donnée à lutte contre le cancer.
Ok. Donc voilà, on parlera de cet événement.
Le rendez-vous est pris. Tu peux peut-être donner ton pseudo Twitch si les auditeurs veulent te suivre.
Le mien, c'est Shock Snake avec le tiret du 8. Et de toute façon,
On partagera.
Voilà, ce sera partagé sur les différents réseaux sociaux. Ouais. On verra peut-être qu'il y aura peut-être une émission Génération Sport un peu spéciale sur Twitch, on verra.
On verra ça. On se quitte avec le générique et puis juste après nous c'est Imaginaire, donc voilà, on vous laisse avec la suite des programmes et nous on se dit à mardi prochain.